Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Je me suis forcé à faire des choses qui ne m'ont pas plu, mais j'ai réussi à le faire parce que je pense qu'on a une plasticité cérébrale qui fait qu'on s'adapte et émotionnel, on se crée des illusions et puis on avance comme ça. Mais je pense que ça ne m'a pas amené bien longtemps en bonne santé. Concession en adaptation, on s'oublie, on ne sait plus qui on est. Quand tu seras mort, les gens qui t'ont demandé de suivre un cadre, ils ne sont pas là. J'aimerais que toutes les personnes puissent découvrir cette sensation-là. Alors pas forcément par une course de 170 km, mais juste se mettre en dehors de sa zone de confort. Ça nous apprend énormément sur nous-mêmes. J'ai eu un instinct de survie qui m'a fait surmonter tout ça, et je pense que le premier pas, c'est l'acceptation. De s'accepter tel qu'on est, d'accepter ses rêves, donc ça ouvre plein de choses parce qu'on se redécouvre, et finalement il n'y a plus vraiment de limite parce qu'on redécouvre ses rêves d'enfant. Même si ce n'est pas tous les jours facile, choisir ses propres contraintes, c'est ça la liberté.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Dans la vie, il y a des personnes que l'on croise et qui nous marquent. Car ils ont ce petit truc en plus. Olivier fait partie de ces personnes. Je l'ai connu à l'IPAG, l'école de commerce que nous avons fait en commun. Il était déjà lumineux, mais je peux vous dire qu'avec ce qu'il a vécu, il est désormais solaire. J'ai découvert récemment sur LinkedIn qu'il a changé de vie. Il est devenu producteur d'huile d'olive après avoir été banquier. En seulement 4 ans, son huile fait partie des meilleures au monde et il fait partie de jurys, notamment celui du Salon de l'agriculture. Ne pas parler de sport en présentant Olivier, ça serait péché. Car il fait partie de ceux pour qui 40 km de course à pied, c'est une courte distance. Bienvenue dans l'univers d'Olivier Garibal. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Je te propose de nous parler des deux objets que tu as ramenés pour te présenter, s'il te plaît.
Alors, j'ai ramené une carte de Haute-Savoie, ouais. Où je vis, et j'ai ramené une bouteille d'huile d'olive, et producteur d'huile d'olive, c'est devenu mon métier.
D'accord. C'était finalement un peu un signe quand on s'appelle Olivier de produire de l'huile d'olive.
C'est vrai que ma mère a bien fait les choses et que pour incarner ce que je fais, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est vrai que le hasard a bien fait les choses là-dessus.
Mais tu n'étais pas producteur d'huile d'olive depuis, depuis la sortie d'études. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ?
Alors je suis né à l'île de la Réunion, donc loin des oliviers. J'ai grandi toute mon enfance là-bas, jusqu'au bac. Ensuite, je suis venu à Paris pour faire mes études. Alors, ni ma famille ni moi ne connaissions Paris, mais c'était pour nous la capitale de la France. Donc j'arrive à Paris.
T'as déménagé avec tes parents et ton frère ?
Non, tout seul.
Juste tout seul ?
Ouais, tout seul. Une valise, des affaires dedans. Je connaissais pas vraiment l'hiver. J'ai débarqué à Paris. Un plein mois de juillet parce que j'étais vraiment pressé. Tous les Parisiens sont partis en vacances, je me suis retrouvé seul. Donc là, j'ai commencé un peu à découvrir la vie seul. Et après, les études ont commencé. Et puis après, bon, j'ai fait une école de commerce. Enfin, avant, j'ai fait 2 années de médecine où j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme aujourd'hui.
D'accord.
Le destin nous a séparés pendant 2 ans. J'ai fait une école de commerce.
Séparés.
Juste physiquement, ouais. C'était juste une...
Mais vous étiez encore en couple ?
Non, même pas. Non. On était amis, mais d'accord. On s'est retrouvés. Et quand on s'est retrouvés, on a eu un coup de foudre pour la seconde fois. Donc voilà.
Super. Et quand t'es déménagé, t'as déménagé à Paris, du coup, t'étais un peu inquiète, t'étais excitée.
J'étais excitée. En fait, je suis arrivé à Paris. Pour moi, c'était un peu quand on quitte la Réunion, c'est on présente la métropole comme le savoir, comme là où on apprend les choses, où tout est en avance. Et j'avoue, quand je suis arrivé à Paris, j'ai pas trouvé ça du tout plus en avance qu'à La Réunion, plus sympathique, que les gens étaient plus évolué. Donc c'est là où j'ai commencé à déchanter. La vie va très vite, les gens n'ont pas vraiment le temps de vous aiguiller dans le métro.
Les gens sont stressés à Paris.
Les gens sont assez stressés, ouais. Et c'est surtout en fait le manque de lumière et le manque de verdure qui m'a un peu perturbé. Voilà, à La Réunion, moi, je voyais la montagne de chez moi, la mer en même temps. Je prends mes baskets, j'étais dans un champ de canne à sucre en train de courir. C'était vraiment... Je ne me suis pas rendu compte jusqu'alors que la chance que j'avais d'y être né. Et puis voilà, donc ça m'a fait comprendre la chance qu'on a de vivre sur une île comme La Réunion, de cette enfance, etc. que j'ai eue. Bon, après, on s'adapte. Et donc, parce que voilà, c'est quand même un effort financier, c'est quand même un investissement et puis un engagement moral. Moi, j'ai décidé de quitter La Réunion pour faire mes études, on ne m'a pas forcé. Et donc, on s'adapte, on essaie de trouver des bonnes raisons d'y être et on continue. Puis après, c'est vrai qu'avec du recul, je ne regrette pas du tout parce que j'ai appris plein de choses et quand je rentre à La Réunion, je suis content de mon parcours. Mais c'est vrai que parfois, on se dit, est-ce que... passe pas à côté de belles journées de sport au soleil. Voilà. Donc, c'est... Au début, c'était... Oui, on entre dans la vraie vie, à se gérer son petit budget, découvrir... On sort de sa zone de confort et finalement, on apprend beaucoup sur soi, sur ce qu'on aime et sur ce qu'on n'aime pas très rapidement.
Ouais.
Voilà. Après, je fais des études de commerce. Les maths, j'aime ça, donc plutôt la finance. Il y a un côté rassurant à l'époque quand j'ai fait ça, la finance, même si au fond de moi je suis plutôt un artiste. Donc
pourquoi
voilà.
Tu es un artiste ?
Bah, j'aime le dessin.
D'accord.
J'adore le dessin et j'aime être dehors.
Okay.
Ce que j'aime, c'est le mouvement, c'est le mouvement d'un crayon sur un papier, c'est l'action, c'est pas vraiment passer des heures derrière un bureau, mais il y avait ce côté rassurant qui m'a fait encore. M'adapter. Et donc, voilà. Bon, je pense qu'on est capable de tout faire en y consacrant du temps. Donc, du coup, on s'adapte et on fait les choses voilà, un peu parce qu'on est conditionné.
Et pourquoi d'ailleurs médecine ? Parce que on est loin du dessin et du dehors.
Ouais, on est loin du dessin, mais là aussi, mon père était médecin. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait.
Ouais.
Et j'ai un rapport au corps qui est pour moi l'épreuve du corps est assez parlante. C'est alors je sais pas s'il y a un terme scientifique, kinesthésique, je crois, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Donc je suis sportif depuis petit.
Ouais.
Voilà, j'aime endurer les choses au niveau corporel, c'est-à-dire l'effort de l'endurance. Donc j'ai fait beaucoup de tennis, beaucoup de vélo, beaucoup de surf, beaucoup de natation, la randonnée, la course à pied. Moi, je pouvais passer une journée sans avoir transpiré un litre, deux litres. Et en fait, c'est les sensations du corps en mouvement, c'est ce qui me parle. Et forcément, on peut être amené à se blesser, ça m'est arrivé. Et mon père m'a réparé, je trouvais ça magique.
Et il faisait quoi ton papa ?
Il était dans la radio.
D'accord.
Donc il savait à l'intérieur de mon corps ce qui déconnait. Et
ouais.
Puis bon, rien de grave, des entorses, des petits coups, etc., des tendinites. Mais voilà, j'ai appris à comment fonctionnait le corps. Il se casse, il se répare, on repart plus fort. Et ça, c'était. Voilà, je ne me suis pas trop posé de questions, ça me plaisait vraiment. Et ça me plaît encore aujourd'hui.
Donc, tu as fait tes deux premières années de médecine.
J'en ai fait une.
J'ai fait une
première année de médecine.
Ouais.
En même temps, je m'adaptais à cette vie à Paris.
Mm-hmm.
La première année, c'est un concours.
Ouais.
C'était vraiment dur pour moi de découvrir cette nouvelle vie, d'être seul, de me gérer moi-même, de faire mes études, de comprendre la compétition dans laquelle j'étais. Parce que c'est vrai qu'en étant à La Réunion, on n'est pas trop aguerri sur le côté compétitif au niveau des études, même si on n'a pas du tout un baccalauréat cocotier. On est vraiment assez... Ouais, non, c'est vrai qu'au niveau des études, on est assez bien. Mais c'est surtout la vie qui est assez différente. Et on a Bon, ceux qui ont réussi la première année, ils étaient chez papa, maman, on leur faisait à manger, ils faisaient pas les courses, ils bossaient, et puis voilà, moi je devais faire tout.
Ils avaient le cocon familial pour les enfants,
voilà, ils étaient soutenir. Voilà, exactement. Je pense que quand on il faut avoir une autodiscipline assez assez forte pour se dire voilà, il faut travailler maintenant, et puis j'avais pas de recul sur la dose de travail que je devais faire. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas eu le concours. Bon, après c'était un concours, j'étais pas mal classé, mais je l'ai pas eu. On prenait 100, on était à peu près 800, voilà, avec une grande part de redoublants. Bref, c'était pas gagné, et en même temps ma vie à Paris m'a pas plu. Donc quand je suis rentré à La Réunion pour mes études, pour les vacances, ouais. J'ai passé un mois de vacances. Au bout de ce mois de vacances, il fallait reprendre l'avion. Et je suis arrivé à l'aéroport, mon oncle m'a accompagné, et là je lui ai dit je peux pas prendre l'avion. Donc j'ai enlevé mes bagages du tapis et je suis allé en douce sans dire quoi que ce soit à mes parents à la fac de La Réunion. Voilà. Pendant une semaine, j'avais disparu de la circulation. Mon corps ne pouvait plus rentrer dans cet avion pour partir. J'avais un peu fermé les yeux sur l'échéance de repartir. Et quand j'étais au pied du mur, je ne pouvais pas. Donc j'ai laissé mon avion partir. Et puis voilà. Bon, après, on a réfléchi, on a discuté, je suis reparti. Donc j'ai changé un peu de cap, j'ai fait cette école de commerce que j'avais décidé, même si j'avais pas, ouais, c'était pas du tout des études d'art, mais c'est vrai qu'à un moment donné je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir raté une année, de devoir faire quelque chose qui ne serait plus un coup d'essai, où là fallait réussir, voilà. Avec du recul, je pense que c'était un peu bête de penser ça. On ne gagne pas du temps à faire ce genre de choses, mais voilà, ce côté rassurant fait que j'ai fait cette école de commerce, j'ai réussi, je me suis forcé à faire des choses que je n'aimais pas vraiment, pas plus que ça. Mais voilà, pour moi, faire du dessin, ça ne rapportait pas d'argent, donc je n'ai pas trop émis l'hypothèse de faire les beaux-arts. Mais mon prof d'art plastique m'avait suggéré de le faire. Mais voilà, j'avais fait un bac S parce que c'était drivé par la sécurité.
Rassurant.
Exactement. Donc après ces études-là, dès que je pouvais. Pendant l'école de commerce, j'ai retrouvé ça qui est devenu ma femme, donc 2 ans après. Mais là, j'ai pas écarté ce que je voulais faire, c'était quitter Paris dès que je pouvais.
D'accord.
Donc toutes les vacances, j'étais dans les montagnes à apprendre à faire du ski, je rentrais à La Réunion, j'ai fait des stages à l'île Maurice, j'ai fait un stage à l'île de La Réunion, 6 mois. Donc, et ensuite, quand j'ai après cette école de commerce, j'ai fait la Sorbonne. J'ai fait un double diplôme en Nouvelle-Zélande. Mm-hmm. Donc voilà, dès que je pouvais partir, je partais. Mais une fois que je suis rentré et que j'étais diplômé, j'avais jusqu'alors décidé de rentrer à La Réunion, terminer l'histoire européenne. Et je ne me voyais pas dire à ma copine, c'est fini, merci pour toutes ces années de patience, je rentre.
Parce qu'elle, ce n'était pas envisageable qu'elle puisse...
Non, elle a fait des études de médecine et du coup, elle devait rester. Ouais, c'était assez prenant.
Ouais,
elle ne pouvait pas changer, elle ne pouvait pas partir à La Réunion en cours d'études. Donc, à chaque fois, elle m'avait attendu, donc 3 fois 6 mois. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, pas Facebook, c'était vraiment des cartes téléphoniques.
Et puis Internet coûtait super cher.
C'était très très cher. Donc on était vraiment accrochés, on était contents quand on se revoyait, et puis j'étais content que l'histoire dure, et c'est vrai qu'elle m'a aidé à rester à Paris, à avoir une raison supplémentaire d'y rester. Mais pour moi, c'était sûr, dès que j'avais mon diplôme en poche, j'avais fait ma part de travail et je rentrais chez moi. Et quand je l'avais dans la main, je me suis dit non, je peux pas faire ça. Et donc je me suis dit, si je reste pour elle, donc je me marie, et c'est ce qui s'est fait. Et donc elle a fait son internat à Tours. Donc là, dès qu'elle était à Tours, j'ai travaillé dans l'audit chez Ernst & Young. Et voilà, au bout de 3 ans, je me suis dit, je te rejoins à Tours parce que Paris, je ne peux plus. Je suis arrivé à Tours et là, c'était le plat pays. Alors Tours, j'ai bien aimé parce que c'était une ville de taille humaine, mais pas de relief, et j'avais l'impression d'étouffer.
D'accord.
Donc je suis retourné à Paris.
Pendant combien de temps t'es resté à Tours avec elle?
2 mois.
D'accord.
Ou un mois. Donc, c'est vrai que là, je me suis dit, bon, il y, y a quelque chose qui... Je me rends compte de ce qui me manque. Moi, je voulais de la montagne, je voulais vivre dans un terrain de jeu. Un terrain de jeu qui me parle et qui me rappelle ce que j'ai vécu à La Réunion, c'est-à-dire des montagnes, un point d'eau, que ce soit un lac ou la mer. J'avais un vélo de montagne à Tours, je pensais que c'était facile d'y aller, mais en traversant de Tours aux Alpes, c'est compliqué de le faire tous les week-ends, donc je me suis dit, bon, finalement, de Paris, c'est plus facile. Donc je suis retourné à Paris, j'ai travaillé chez BNP Paribas pendant 5 ans, sur des grands comptes, des choses assez intellectuellement stimulantes. Mais voilà, tous les soirs, je prenais le train et j'allais dans la forêt de Meudon et je courais 2 heures, je rentrais la nuit. Et quand je rentrais la nuit, là, j'étais content. Mmh. Donc je me suis dit, bon, cette vie, elle est un peu spéciale quand même parce que je pense que je ne suis pas à ma place. Mes copains, s'il fallait que je les voie, il fallait que j'aille dans un bar à 23h et à boire des bières. Moi, c'était pas du tout mon truc. Je prenais, une limonade, un verre d'eau. Et puis, je sentais que j'étais pas dans la bonne mouvance. Donc, je pense qu'à un moment donné, je me posais déjà des questions, mais on se dit comment faire pour partir de cet endroit en trouvant du travail en France, en étant pas à son propre compte. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a travaillé.
Parce qu'à cette époque-là, oui, t'envisageais pas de dire je me lance à mon propre compte.
Non. À cette époque-là, j'avais envie de créer ma société, mais je ne savais pas dans quoi.
D'accord.
Alors,
tu avais quand même une petite voix du coup qui te disait un jour je serai mon propre patron.
D'ailleurs, j'ai fait cette école de commerce parce que je me suis dit dans le commerce, en gros, on achète un produit 1, on le vend 2 et on gagne. Voilà. Je me suis dit, j'apprends quelque chose qui me servira pour que je puisse me débrouiller tout seul. Donc, le commerce est le premier métier du monde. Donc, je me suis dit, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'aidera tôt ou tard.
C'était quelque chose que tu disais quand tu étais petit ? Quand tu étais petit, tu disais, quand je serai grand, qu'est-ce que serait ton métier ?
Alors, ça, je l'ai retrouvé plus tard dans des phases d'introspection, mais mon premier métier que je voulais faire, c'était jardinier.
D'accord.
Voilà, ça, c'était le plus profond. Quand je voyais mon jardinier, quand j'étais vraiment petit, 4 ans, 5 ans, je me suis dit, je voudrais être jardinier, je voudrais travailler dehors. Pousser la brouette, la tondeuse, couper des branches, ça me plaisait vraiment. Et puis après, c'est assez physique, ça me convenait. Et puis après, bon, les parents médecins,
Ta maman aussi est médecin ?
Non, elle est juriste, donc D'accord. elle était greffier, donc elle a fait du droit. Donc dans les études, ils envisageaient droit ou médecine, c'était assez étriqué comme choix.
Tes parents, c'était ça, mon fils, tu seras médecin ou tu feras le droit ?
Mon père, c'était tu fais ce que tu veux, ma mère, c'était fais quelque chose qui soit rassurant quand même. Donc c'était pas clairement dit, mais c'était très suggéré.
D'accord.
Il y a quelque chose, qui, même dans les non-dits, je pense qu'il y a quand même un conditionnement familial qui fait que, t'as vu ton cousin, il fait du droit, ton frère, il est fort en maths et machin, tout ça. Donc du coup...
Vous êtes deux frères ?
On est deux. Et lui, pas du tout sportif.
C'est lui l'aîné ?
Non, c'est lui qui est mon cadet de 2 ans. Et donc lui, c'est vraiment l'intellectuel, fort en maths et tout. On est assez différents, mais on est très proches.
Ouais.
Mais lui, il était dans le bon cadre familial, donc s'il n'y avait pas de sujet à son égard.
Toi, mais t'étais un peu le trublion, du coup, je veux être artiste, j'aime dessiner.
Complètement. Moi, c'est le, j'aimais ce qui, moi, c'est le mouvement, c'est des choses qui sont pas vraiment rassurantes, mais c'est ce qui me parle. Mmh. Et du coup, c'est vrai que je me suis forcé à faire des choses qui m'ont pas plu. Mais j'ai réussi à le faire parce que je pense qu'on a une plasticité cérébrale qui fait qu'on s'adapte et émotionnelle, on se crée des illusions et puis on avance comme ça. Mais je pense que ça m'a pas amené bien longtemps en bonne santé. Mais oui, c'est pas très compliqué. Mais on a du mal à se projeter dans quelque chose qui soit vraiment palpitant. Donc du coup, je me suis dit, j'aurais un métier, Mais dès que je peux partir, dès que je peux faire du sport, je le fais. Et est-ce que ça va me suffire? Je ne sais pas. Mm-hmm. Mais donc voilà, donc, bosser dans le secteur bancaire, c'était des horaires assez fixes. Le soir, j'avais ma soirée, mais...
Ouais, parce que toi, tu fais des trails, tu fais
ouais,
des...
Moi, j'aime courir, j'aime éprouver quelque chose physiquement, mm-hmm. c'est-à-dire que j'aime sortir de ma zone de confort, c'est là où je trouve du plaisir. Alors, ça a rien de maso. C'est, non, mais c'est vrai que je me sens vivre quand je viens d'avoir couru 2 heures et que voilà, ça, j'ai les muscles un peu fatigués. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Ouais.
La plus belle prouesse physique que tu as faite, c'était quoi?
Je pense que c'était le Tour du Mont-Blanc, donc l'UTMB, c'était il y a 2 ans. Le Tour du Mont-Blanc, c'est une course de 170 km. J'avais fait avant le Grand Raid de La Réunion, donc c'est la traversée de l'Isse qui fait 170 km aussi, 10 000 mètres de dénivelé sur les deux courses. Je choisis l'UTMB parce que j'ai eu un problème de chaussure qui m'a fait perdre mes capacités de courir. Donc au bout de la mi-parcours, j'ai dû marcher. Marcher à peu près 70 km, c'est assez long, avec des douleurs surtout. Mais je voulais pas lâcher. Et donc du coup, ouais, j'ai passé des caps de mentaux qui m'ont fait finir cette course. Donc j'ai puisé vraiment très très loin dans mes réserves pour pouvoir la finir. Et puis il y avait ma femme qui était là aussi au bon moment où je voulais vraiment abandonner. Donc ouais, cette course m'a marqué parce qu'elle était difficile, elle s'est pas passée comme prévu. J'ai fait 33 heures, donc c'était vraiment, je pense que ouais, c'est un très bon temps.
Pendant 33 heures, tu cours et après tu marches?
Je cours dans toutes les descentes, ouais. Sur tous les plats. Et dans les montées, on marche bien, assez
mais
vite.
Ma question va paraître bête parce que je suis... tous les gens qui me connaissent savent que je suis pas du tout sportive. J'ai fait le Marseille-Cassis, mm-hmm. J'ai un peu l'impression d'avoir fait les JO. Je l'ai fait une fois dans ma vie et c'est tout.
C'est bien, bon début.
Et en fait, mais du coup, tu dors, tu...
Non, non, non. Je pense qu'on a tellement d'adrénaline et tellement... voilà, on a envie d'être là, c'est pas pour dormir. Alors, je connais des copains qui courent et qui... Ils font une course de 70 km, qui font une petite sieste. Moi, c'est pas vraiment mon truc. Moi, j'aime le mouvement. Je crois que sur le Grand Raid où j'ai mis 40 heures, j'ai dormi peut-être 10 minutes. Mais surtout que moi, je cours mieux quand c'est la nuit.
D'accord.
Donc, sur toutes ces courses où j'ai couru 2 nuits dehors, sur ces deux courses-là, les phases où j'étais le plus rapide, c'était pendant la nuit.
D'accord.
Alors, je pense que c'est parce que je suis vraiment dédié à ce que je fais. Je suis pas parasité par le paysage, par les gens autour. Je suis vraiment concentré dans le faisceau de ma lombe frontale qui fait pas plus d'un mètre de large. Donc, le temps passe très très vite. Je suis complètement dans ma bulle. Je pense à rien d'autre. J'ai l'impression de voler. Et non, parfois je sens même pas la faim ni la soif, c'est vraiment c'est une sensation c'est assez addictive en fait de courir la nuit. Donc non, je dors pas et puis après je pense que le corps moi, je suis très à l'écoute de mon corps, donc je fais tout à la sensation. On va de l'avant, si on dort ben c'est du temps perdu, c'est de toute façon le chemin il va pas se faire tout seul, donc ça sert à rien.
C'est pas sur un tapis roulant.
Non, 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 ça c'est... Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, c'est que voilà, on est seul face à son choix, parce que si j'ai couru autour du Mont Blanc, je suis là parce que j'en ai eu envie, je l'ai décidé. Et personne ne va me pousser, quoi. Donc, on est libre de d'être là et on a son destin, donc cette ligne d'arrivée dans les jambes. Donc, on ne fait pas la course contre les autres. Ça, c'est un truc qui est important de souligner sur ces courses longues distances. Je ne pense pas que ce soit le format qui me convienne pour la performance. Moi, je pense que je suis beaucoup plus fort sur des courtes distances, entre guillemets c'est 40 km ou 30, mais sur les longues distances je le fais plus pour l'aventure et pour l'introspection. Et je pense que je fais pas ces courses-là contre les autres ou contre moi-même, mais je les fais pour moi.
Et donc c'est pour ça que le chrono a très peu d'importance, mais c'est vrai que à chaque fois que j'ai fini une course qui m'a demandé d'aller vraiment assez loin à découvrir mes limites, on revient assez différent. On revient en tout cas pas pareil.
Ouais.
Et ça c'est, on se découvre. Et je pense que j'aimerais que toutes les personnes puissent découvrir cette sensation-là. Alors pas forcément par une course de 170 km, mais juste se mettre en dehors de sa zone de confort. Et alors soit en intensité, soit en endurance, soit par je sais pas la natation, d'autres sports. Enfin pour moi le sport c'est assez parlant, c'est assez facile. Mais voilà, sortir de sa zone de confort, ça nous apprend énormément sur nous-mêmes. Et on revient, je pense qu'on est vraiment dédié à ce qu'on fait. C'est dur à expliquer, mais je pense que quand on court des longues distances, on peut être parasité par des pensées négatives qui peuvent nous dire « arrête-toi là, t'as trop mal, tu vas trop loin, t'es jeune, ça sert à rien de te bousiller une articulation ». Voilà, il y a plein de raisons d'arrêter. Mais voilà, quand on arrive à éteindre toutes ces pensées parasites, on repousse ses limites, ou en tout cas on les découvre. Encore une fois, là, le corps s'adapte aussi hein, à l'effort. Bon, ça nécessite beaucoup d'entraînement, on se lève pas un matin.
Justement, c'était une question que j'allais te poser. Bon, forcément, ça, en effet, c'est une rigueur de vie, j'imagine, à la fois en termes d'alimentation, de sommeil, ta femme, elle le vit comment ?
Alors ça c'est un style de vie pour moi, le sport c'est pas je vais faire du sport et je reprends ma vie d'à côté, c'est une continuité,
ça fait partie de toi.
Voilà, c'est inscrit dans ce que je suis. Pour moi une journée voilà sans manger, une journée sans sport, c'est pareil, il manque quelque chose. Donc voilà, bon, ça peut m'arriver d'avoir une journée sans sport, mais comme une journée sans manger, mais c'est un ingrédient d'un quotidien, et c'est sur ce long terme que moi j'ai intégré ce sport. Alors tous les sports, hein, la course à pied c'est assez facile, ça fait partie de ma vie. J'envisage pas une semaine ni une journée sans avoir mis le nez dehors et sans avoir couru ou faire du vélo ou faire la natation. Voilà. Donc, mais l'impact sur la famille, il y en a un. Alors, j'essaie de faire en sorte que ce soit transparent pour ma famille. Et pour ma femme, j'essaie de faire en sorte que pour elle, je ne cours pas. Et que ce soit pareil, en fait. Donc, je cours soit quand elle travaille. Donc, moi, je suis à mon compte. Donc, je m'organise. Je organise ma journée comme je veux. Donc, je cours en journée. Le soir, je m'occupe des enfants. Je fais les courses. Enfin, voilà, j'ai une vie normale comme si je ne courais pas du tout des longues distances. Le week-end, bien sûr, je cours, mais comme quelqu'un prendrait l'air ou irait faire, je sais pas, une sieste. Moi, je fais pas trop de sieste, donc je vais courir à la place. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment d'impact. Il y en a un, mais il est assez mineur face à la dose d'entraînement que je fais. Pour moi, c'est pas un entraînement, c'est vraiment du prendre, vivre la vie que je veux. Je le vois pas comme un entraînement, mais comme un moment dans la vie où je me consacre du temps. Et c'est vrai que, alors c'est la beauté du sport, c'est qu'elle nécessite d'être en bonne santé, et je pense qu'on cherche tous à être en bonne santé, sinon il n'y aurait pas autant de magasins bio qui dans les rues. Donc le sport c'est nécessaire, la bonne alimentation ça l'est, parce qu'on est ce qu'on mange. Donc il faut bien s'alimenter pour pouvoir avoir un corps et un bon moteur. Et un bon carburant. Donc si on a une Porsche et qu'on met de l'eau, ça marche pas. Mais donc voilà, et même sans faire de sport, je pense que ça, bien s'alimenter, c'est vraiment important. Ensuite on dort convenablement bien, et puis après voilà, ça nous plonge dans un cercle vertueux. Donc tout ça c'est aussi une continuité, c'est lié. Alors quand on met le doigt là-dedans, on voit rapidement les effets de courir sur au niveau cardiaque, au niveau du sommeil. Moi je dors, je m'allonge, je dors je pense que en 30 secondes, ça y est, je suis parti, je cogite pas vraiment. J'apprends
à m'alimenter, donc je me renseigne sur les aliments, donc je découvre les impacts des aliments sur le corps, ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons, ceux qui nous réussissent, ceux qui nous réussissent pas. Donc on apprend énormément de choses, et c'est vrai que la base de la vie, c'est manger. Enfin voilà, on est ce qu'on est, mais par l'évolution, on est né pour courir, on court pour s'alimenter. Moi, je perpétue juste ce pour quoi on est fait. Quoi. Mmh. Voilà, c'est tout.
Donc là, tu travailles chez BNP et en fait, un jour, alors tu vas nous raconter pourquoi, tu te dis j'ai envie de me lancer, d'acheter un petit domaine d'huile qui produit de l'huile d'olive.
Voilà, alors je travaille chez BNP, mon frère travaille à Hambourg, ma mère vit à l'île de la Réunion, mes parents vivent à l'île de la Réunion, donc et puis j'ai de la famille qui vit en Grèce. Une partie de ma famille. Donc du coup, moi, petit, j'avais vu Le Grand Bleu avec mon père pendant une semaine. Ça passait au cinéma et il m'a traîné tous les soirs. Pendant 6 soirs, j'ai vu Le Grand Bleu en boucle. Ça m'avait vraiment marqué parce que j'aimais beaucoup la plongée, j'aimais beaucoup l'eau. Donc je fais de la plongée depuis petit, de l'apnée, la plongée, voilà. C'est
parce que vous étiez fans tous les deux. C'était quoi la démarche d'aller le voir pendant...
Ben oui, on était fans tous les deux. Ce film encore, je le regarde sans coupure entièrement. C'est un des films qui m'a marqué. La plongée, on est dans son monde. Il y a des à côté pour. Il y a le yoga, il y a la respiration, il y a le calme. Il y a tout plein de choses qui fait que ce sport est assez mystérieux, intrigant. On se concentre sur soi, on essaye de contrôler son rythme cardiaque. Donc on prend contrôle sur soi et ça c'est on se découvre et ça m'a vraiment plu. Donc après le paysage était beau et j'étais en France pour faire mes études. Je me suis dit allez, il faut que je découvre la Grèce, donc je suis allé voir la Grèce. Je me suis dit il faut que je retrouve cette île. Je l'ai découverte après, mais voilà, j'avais un penchant pour en Europe, en tout cas pour une terre en Grèce.
D'accord.
Au même moment, pendant mes études, j'apprends que j'ai de la famille là-bas et avec mon frère, on fait de l'huile d'olive par tradition. Moi, j'adore
ma famille. Par tradition.
Notre famille est
en Grèce.
Ils sont nés en Grèce, okay. Donc nés à l'endroit où nous on a acheté notre olivier.
Ouais,
donc c'est dans le sud du Péloponnèse, près d'une ville qui s'appelle Kalamata. Mm-hmm. Donc il y a que des figuiers et des oliviers. Donc faire l'huile d'olive, c'est la tradition. Nous on le faisait avec beaucoup de plaisir parce que moi j'adore m'alimenter et j'utilisais de l'huile d'olive, mais je l'achetais en grande surface comme tout le monde. Mais mes grands-parents qui étaient du côté de mon père qui ont vécu dans le Var, il n'y avait pas un repas sans huile d'olive, donc ça faisait partie de mon alimentation. Donc faire sa propre huile, c'était marrant. Bon, là, c'était celle de mes oncles, mais je rentrais en France avec l'huile d'olive. J'étais content, je faisais découvrir, les gens, ils adoraient. Et puis un jour, je me suis dit avec mon petit frère, tiens, on réunit nos économies, on achète un petit terrain qui était 600 mètres carrés, pas très cher, mais on fera notre huile d'olive. C'est notre trait d'union entre nous, sachant qu'on vit assez loin les uns des autres et c'est un lieu de rencontre. Donc,
c'était en quelle année ?
C'était en 2009, 2007, vers là, je crois.
T'étais où à ce moment-là ? T'étais déjà à la BNP ?
J'étais à la BNP, ouais. C'est marrant parce que, je t'expliquerai après, j'ai eu un événement, mais ce qui s'est passé avant cet événement, j'ai plus trop de mémoire.
D'accord.
Donc, j'ai cette oliveraie là, je fais de l'huile d'olive.
Donc là, vous avez de l'aide sur place pour, parce que tu vis à Paris, ton frère à Hambourg.
Oui, alors nous, c'est tout simple, hein. On découvre ce qu'on fait en faisant, donc ouais. On a l'oliveraie, c'est le système. Quand on n'est pas là, il se passe rien.
D'accord.
Quand on est là, on récolte. On sait que y a une date de récolte, donc on y est. Les olives sont matures, on récolte, on va au moulin, on fait presser.
Okay.
On achète un fût parce qu'on veut pas la mélanger aux autres. On veut vraiment notre produit, donc on met dedans et puis après on remplit des bouteilles à la coopérative et puis voilà. Okay. Et ce n'est qu'après qu'on apprend que oui, il y a des périodes où il faut tailler les arbres. Il y a des périodes où c'est la conduite d'oliveraie qu'on a appris sur le tas, mais il y a des périodes pour mettre des fertilisants, il y a des périodes où il faut la récolter, et selon les maturités, on peut avoir des huiles différentes. Mais ça, on l'a appris petit à petit.
Mais comment vous l'avez appris? Vous vous êtes formé?
Je me suis formé avec mon petit frère, avec Alexandra Gauquelin-Rocher, qui est une oléologue, son métier est le fruit aussi d'une reconversion, parce qu'elle avait son entreprise à Paris dans la communication. Et elle a été passionnée par un voyage dans les Pouilles, par l'huile d'olive, et donc du coup, elle a fait sa formation de oléologue, et elle forme des amateurs.
D'accord.
Donc nous, on s'est formé auprès d'elle, auprès de Cécile Le Galliard aussi, qui est une oléologue diplômée d'une université de Rouen en Espagne sur l'huile d'olive. Et donc c'est deux références en France,
ouais,
sur l'huile d'olive, donc c'est auprès d'elle qu'on s'est formé.
Et à partir de quand vous vous êtes formé alors ?
On s'est formé au bout de la 6e année, après qu'on ait commencé à faire notre propre huile. On s'est formé 5e année, parce qu'on s'est formé quand j'ai décidé que faire de l'huile d'olive, ça serait mon métier. Je me suis dit là...
Justement, quand est-ce que tu t'es dit que ça allait être ton métier?
Cette vie un peu en grand écart entre mes penchants naturels pour être dehors et faire du sport et l'adaptation que je me suis forcé à faire en travaillant dans la finance, fait que, et je pense que ça vient de là, à vivre à l'endroit où je ne suis pas vraiment à ma place, je pense que j'ai peut-être somatisé quelque chose. Bon, j'ai eu une tumeur sur le nerf facial, donc à la base du cou, mais on a découvert cette tumeur-là en m'opérant, avant de m'opérer, c'était un petit kyste qu'on était censé m'enlever. Donc une découverte fortuite lors de l'opération qui, pour moi, je me suis endormi vraiment avec quelque chose de très bénin. Mmh. Je me suis réveillé avec une paralysie faciale définitive. Et on me l'a annoncé au réveil, comme ça. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu, désolé. Vous avez une paralysie faciale définitive parce que ce n'était pas un kyste, c'était une tumeur que vous avez eue. Donc, on est en train de faire des analyses pour voir si c'est une tumeur bénigne ou maligne. De toute façon, on va faire des prélèvements. Vous allez faire un protocole de recherche si... il n'y a pas d'autres tumeurs dans le corps, sur vos nerfs. On pense à telle maladie, à telle, à ci, à ça. Donc voilà, là, la vie, elle change brusquement parce que je courais déjà des distances convenables. Je prenais de faire une course à La Réunion de 70 km. J'étais vraiment... j'avais tout mis de mon côté par plaisir pour être en bonne santé. Et je m'endors dans cet hôpital. À côté de moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué. Je partageais ma chambre avec un malade que je ne connaissais pas, mais au son de sa voix, j'avais compris qu'il avait un cancer de la gorge, un truc assez grave. Et je me suis dit, waouh, ça c'est... dans la vie, il y a des choses graves, donc j'espère que moi, ça ira. Et le lendemain, je me suis réveillé avec la tumeur, le visage paralysé. Quelque chose... Bon, dans l'échelle de valeur, c'est peut-être pas vrai de façon absolue, mais dans la mienne, je me suis dit, voilà, en une nuit, mon cas est devenu plus grave que le sien. Même si, en vrai, je sais pas vraiment ce qu'il y a eu, je sais pas si c'est vrai, mais voilà, je me suis dit, voilà, en une nuit, tout a changé. Ma perception des choses et de l'avenir a changé parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire que le visage est paralysé? Donc, s'il y a plein de conséquences, mon œil, il peut plus se fermer, il est tout le temps ouvert, donc je peux avoir un dessèchement de ma cornée. Je dois dormir avec un sparadrap qui me ferme l'œil, que je pose moi-même, avec de la graisse sur la cornée.
C'est encore le cas aujourd'hui tu dois...
Pas vraiment, non. Je mets des gouttes avant de dormir tous les soirs. Mais non, aujourd'hui, j'ai intégré tous ces petits gestes qui m'aident à préserver mon œil surtout. Mais non, par contre, j'ai eu plusieurs chirurgies réparatrices pour retendre ma paupière, pour me mettre une plaque d'or dans la paupière pour qu'avec le poids, mon œil puisse se fermer dans la journée. J'ai fait 8 mois de rééducation quotidienne, 4 heures de rééducation par jour. Je suis retourné voir l'orthophoniste. J'ai recommencé à zéro à parler. Il y a des lettres que je ne pouvais pas prononcer parce que je ne pouvais pas contenir de l'air dans ma bouche. Quand je buvais un verre d'eau, ça bavait sur le côté. Bon, il y avait plein d'à côté qui étaient assez, entre guillemets, dramatiques. En tout cas, suffisamment pour qu'on se dise, oui, il y a quelque chose qui a vraiment changé là. Le médecin, d'ailleurs, c'est une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'avait dit, votre visage d'avant, il faut l'oublier. Et c'était le seul médecin qui pouvait faire quelque chose, qui m'avait fait donc une autogreffe, une greffe d'un nerf sensitif. Et il m'a dit, on va faire une expérience, parce que j'ai pas de recul. En 10 ans d'archives, à l'hôpital, on n'a pas trouvé un cas comme le vôtre. Donc on fait une expérience, on vous greffe un nerf sensitif. Si le nerf moteur repousse, peut-être qu'il y a, par chance, il y aura une connexion nerveuse et ça va redémarrer. Mais c'est qu'à vous qu'appartiendra la rééducation. Mais une chose est certaine, votre visage d'avant, il faut l'oublier. Donc ça m'avait marqué.
Mais au final, les tumeurs, elles étaient bénignes ?
Finalement, elles étaient bénignes, mais je l'ai su assez rapidement, mais j'ai quand même attendu 2 mois de recherche avec
de stress, de
scanner, IRM, corps entier, injecté, non injecté, bref. On est un peu sur le fil du rasoir, alors on ne sait pas trop si... oui, j'ai envisagé ma vie à très court terme, ouais. Sachant que j'avais un petit garçon qui allait naître 2 mois après.
Deux mois après mon opération,
j'ai mon petit garçon qui est né. Donc ça fait énormément de contraste entre les bons événements et les mauvais.
Ah,
et voilà. Donc du coup, ça.
Bon, l'ascenseur émotionnel.
Des extrêmes. Mmh. Sur ce lit d'hôpital, je fixais le plafond en attendant. Donc ça a duré quand je suis resté une semaine à l'hôpital, donc à cogiter seul dans ma chambre. Fixé au plafond parce que l'œil est toujours ouvert et puis bon, l'esprit pas du tout tranquille. Je pense que c'était les plus longues journées de ma vie où on redessine un peu toutes ces perspectives, tous ces projets. Et puis ce que je me suis dit, voilà comment le dernier jour de ma vie va se passer. Je me suis projeté là-dedans, je me suis dit, je pense que quasiment tout le monde aujourd'hui, si on a conscience de ces derniers jours, si c'est pas une mort brutale, je pense qu'on peut être amené à réfléchir sur ce qu'on a vécu. On se dit, est-ce que finalement on a vécu pour soi ou on a vécu pour faire plaisir à d'autres ou on a vécu dans le cadre que le conditionnement nous a demandé de suivre. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, quand tu seras morte, les gens qui t'ont demandé de suivre un cadre, ils ne sont pas là. Ou alors, ils ne seront pas vraiment là pour t'accompagner. Ces derniers instants t'appartiennent à toi seul. Et si tu es fier de ce que tu as fait, je pense que tu pars tranquille. Mais s'il y a quelque chose à côté duquel tu es passé, je pense que c'est une fin assez triste. Donc, je me suis dit, OK, à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Et je m'en donnerai les moyens. Donc, je me suis dit, est-ce que je peux encore boire dans une gourde ? Je me suis dit, si je peux encore courir et je peux boire en courant, j'aurai encore quelque chose qui me rappelle à moi. Et je pouvais, sur un coin de ma bouche, encore sans que l'eau ne fuit. Donc, c'était ma première pensée vraiment optimiste. Je me suis dit, OK, je pense que j'ai encore un avenir. Un avenir, c'est-à-dire mon corps dans moi-même a encore un avenir de sourire à la vie. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai une raison de vivre en dehors du monde extérieur, c'est-à-dire mon petit garçon qui va naître, ma famille, tout ça, c'est le monde extérieur à moi, mais moi-même, dans mon âme, j'avais encore une raison de me faire encore plaisir tout seul, quoi. Mmh. Donc ça m'avait mis déjà sur la piste que voilà, j'intégrerai le sport comme élément de mon quotidien et je ferai aucune concession. Pour se reconstruire, c'était vraiment capital. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai toujours voulu monter ma boîte, je sais pas dans quoi, et ce projet d'huile d'olive avec mon frère était là. Je me suis dit, mais voilà, moi, ce que j'aime, c'est le concret. Je vendais des produits financiers, des produits un peu abstraits, auxquels moi-même, j'y croyais pas parce que ça me plaisait pas. Mais là, c'est une bouteille d'huile d'olive sur la table, on la goûte ensemble. Si tu aimes, tu la prends. Si tu n'aimes pas, tu la laisses. Et puis voilà. Donc ça m'avait vraiment plu. Et je me suis dit, ça sera mon métier. Je vais être producteur d'huile d'olive. Donc je vais apprendre à me former parce que je ne veux pas le faire comme ça au hasard. Être autodidacte un peu, mais je me suis vraiment entouré des références. J'ai pas fait exprès de trouver ces personnes-là, donc Cécile et Alexandra, j'ai envoyé une huile d'olive à Cécile en tapant sur un Google oléologue. Mm-hmm. Je suis tombé sur elle, je ne la connaissais pas, je l'ai envoyée. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, est-ce que ton huile, je peux l'utiliser pour faire un concours ? Là, je me suis dit, donc, elle est bonne. Elle m'a dit, voilà, elle est excellente, équilibrée, etc. Je me suis dit, donc, on a un bon départ. Et quand j'ai eu ce verdict et que j'ai compris après qui c'était, que c'était vraiment une référence, je me suis dit, ok, donc l'horizon s'est ouvert. Je me suis dit, je suis dans les bons starting blocks, j'ai pris un bon départ et fonce.
Y a donc plus... là, tu étais encore chez BNP.
J'étais chez BNP en congé maladie.
Ouais.
Et j'étais encore à Paris. Mais voilà, depuis 6 mois, avec ma femme, lors de nos voyages du week-end, je lui disais, il faut qu'on découvre la France parce que moi, il faut que je me projette dans un autre endroit que Paris.
Ouais.
Donc tous les week-ends, on était soit à Biarritz, soit dans les Alpes. Tous les étés, c'était dans les Alpes. Voilà, j'essayais de convaincre ma femme, qui est de la région parisienne, que la vie, c'est pas que le trottoir, les murs. Et
elle est originaire de Paris.
Elle est originaire de Paris, de Nogent, mais ayant fait son internat à Tours, elle a quand même goûté à la vie de province. Et, mais voilà, on était revenus à Paris tous les deux. On était très bien à côté du jardin de Luxembourg. Moi, c'était. Alors, c'est un très, très beau quartier, très bien, mais c'était pas suffisant pour moi. Je le vois pas comme un amoureux du 6e, même si j'adore ce quartier, c'était pas ça pour moi. Donc, on découvrait la métropole, et donc j'avais mis une croix sur l'île de la Réunion, bien sûr. Et voilà. Mais l'effet déclencheur, ce qui nous met sur en mode rêve et mode action, on n'en avait pas vraiment un. C'était oui, quand on aura des enfants, quand on aura ci, quand on aura ça. C'était toujours... on n'a pas encore les planètes alignées pour le faire. Avec cet événement-là que j'ai eu, donc voilà, ce bouleversement dans ma chair, je lui ai dit, écoute, moi je rentre à la Réunion, c'est terminé. Ou soit on part à Annecy, parce que j'ai déjà découvert Annecy, parce qu'en faisant de la course de montagne, j'ai déjà fait le tour du lac en courant, lors de compétitions, Chamonix, etc., je connaissais bien, et j'avais eu un petit coup de cœur pour cette ville-là, c'était près des montagnes, près d'un lac, voilà, beaucoup de similitudes avec La Réunion, beaucoup de similitudes avec l'endroit où en Grèce j'ai mon oliveraie, donc on est proche des montagnes, proche de la mer, et je me suis dit, si en métropole je dois m'installer, c'est là, et je lui ai dit, écoute, oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, je suis au bout d'un chemin. Et c'est soit tu viens ou soit je pars tout seul. Je ne sais pas comment je vais faire, mais j'avais envisagé vraiment d'être assez radical dans ce choix-là. Je voulais plus passer ma vie à faire autre chose que ce pourquoi je sentais que j'étais fait pour. Donc, en 6 mois, on a atterri à Annecy. Alors,
elle
m'a dit oui. Donc elle est médecin. Ouais, elle m'a dit oui. Ouf. Bon, Annecy, c'est pas non plus le bagne. C'est vraiment très beau.
Apparemment, c'est magnifique.
C'est super. Donc j'ai pas vraiment lutté pour l'en convaincre, mais quand même, il y a eu le poids de la famille, etc. C'était pas non plus très 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 simple. Partir avec un enfant. Est-ce qu'on va se faire des amis? Enfin, 1000 questions. Moi, j'avais pas toutes ces questions-là, mais je comprenais que qu'elle s'en pose. Il y a une phrase qui m'a plu de Confucius qui dit qu'on a deux vies. La seconde commence lorsqu'on comprend qu'on en a qu'une. Et là, il n'y a aucune barrière qui nous retient. On passe à l'action, on déménage. Et je monte ma boîte. Je dépose mon cabis au greffe, je commence à avoir mes premières bouteilles d'huile d'olive, mais je n'en vends pas une à Paris, parce que je ne veux pas que les premières personnes qui la dégustent soient à Paris, soit l'endroit que je n'aime pas. Alors, je respecte tous ceux qui aiment Paris, hein, c'est juste mon opinion, mais je dis pas que cette ville est nulle. La preuve, j'y suis là aujourd'hui, parce que voilà. Mais juste, je pense qu'il faut être fier de l'endroit où l'on vit et qu'on le décide. Et voilà, quand on a vécu à La Réunion, c'est très difficile de se projeter dans un autre endroit, un autre continent, sur un lieu qui nous plaise vraiment. C'est pas évident, je pense que j'ai mis 8 ans à trouver cet endroit-là. Pour moi, ça compte. Alors, mon frère, par exemple, ça compte pas du tout. Il vit à Hambourg. Mmh. Il a eu la même enfance que moi, mais il vit dans cette ville, qui est une ville au froid, où il n'y a pas vraiment de montagne. Voilà. Donc, c'est vraiment personnel. Mmh. Donc, je tiens à préciser. et voilà, donc je me sens... alors, on part à Annecy. Là, il y a... Il y a un truc qui se passe, c'est que tout est facile. Ma femme, on trouve une maison, quasiment on ne l'a pas visitée, qu'on sait qu'elle est bien, des amis l'ont visitée, elle est pour nous.
Vous aviez des amis qui étaient à Annecy ?
On avait la seule amie, oui, j'avais un ami de BNP qui était à Annecy, qui m'a dit, moi je te connais, depuis quelques mois qu'il y était, il me disait, mais si j'ai trouvé le spot pour toi, c'est Annecy, moi j'y suis, c'est génial. Et moi, je ne savais même pas où c'était. Enfin, je savais par les courses, mais je ne savais pas est-ce que c'était... Enfin, j'arrivais, je prenais mes baskets, je courais, je sais que l'endroit était bien, mais est-ce que c'était dans le nord, dans l'est ? Je ne me posais pas trop les questions. Donc là, je me suis dit, OK, je me suis dit, cet endroit, c'est pour moi. On le découvre ensemble en famille. En 6 mois, on était installés. Notre appart était rendu, déménagé. Voilà, le changement de vie radical. Et là, je vends mes bouteilles d'huile d'olive à quelques clients, à un chef étoilé notamment. Alors, je ne lui vends pas, je lui fais déguster parce que j'ai compris qu'à dans la carte, il aimait bien l'huile d'olive. Donc, je lui fais vraiment déguster.
C'était quel chef ?
C'était Johan Comte. Donc, ce chef a beaucoup compté. Parce que j'ai invité ma femme pour son anniversaire et j'avais vu de l'huile d'olive à table dans une coupelle. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même incroyable. Et on met en valeur à ce point l'huile d'olive dans un chef 2 étoiles. Et je me suis dit, alors j'étais quand même pas tranquille pendant tout le dîner parce que j'avais qu'une idée, c'était que cette huile un jour devienne soit la mienne. Voilà, donc j'étais omnubilé par ça. Donc à la fin du repas, je discute avec lui, je lui dis je fais de l'huile d'olive, est-ce que ça vous intéresse de la goûter ? Donc il me dit ok. Alors le lendemain, je lui dépose et 2 semaines après, je me retrouve dans les cuisines et il me prend comme huile pour la cuisson.
Génial.
Bon, huile cuisson, c'est génial, c'est déjà un pied dedans, mais c'est voilà. Voilà, c'est une petite victoire. Là, les perspectives au niveau de mon entreprise, elles commencent à... Je me suis dit, si ça marche chez lui, ça doit marcher chez d'autres. Mais voilà, moi, depuis que j'ai créé ma société, je vois que les faces positives de la vie. J'ai complètement occulté les éléments négatifs, les pensées parasites, tout ça. C'est aussi un travail qui sur soi qui est important. Bon, moi, je l'ai fait parce que ça m'a aidé à traverser ma rééducation qui était vraiment lourde. Je pense que si on a des idées pessimistes, on n'avance pas d'un cheveu. Je pense qu'il faut vraiment avoir un esprit très, très optimiste. Et l'idée de quitter Paris, pour moi, c'était d'être dans ma seconde vie, de tout réinventer, de tout décider. C'était vivre un rêve. Donc ça m'a beaucoup... je pense que ma rééducation a fonctionné parce que j'étais vraiment tourné dans un esprit très, très positif où finalement, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir eu ce drame, entre guillemets. Parce que
c'est
ça
Christine Michaud, qui est une personne qui fait la psychologie positive, que je vais interviewer là, au mois de mars, qui appelle ça un cadeau mal emballé.
Oui, c'est vrai, c'est bien trouvé. C'est exactement ça. Alors, je me suis jamais dit quelle tristesse, ta vie est fichue, etc. C'est terminé, tu disparais aux yeux des autres parce que les gens, ils me regardaient avec un drôle... Les gens qui me connaissaient, mon visage était assez défiguré. Le visage, c'est une carte d'identité, c'est assez important. J'aurais pu me mettre en marge et déprimer. Et alors que là, pas du tout. J'ai eu un instinct de survie qui m'a fait surmonter tout ça. Et je pense que le premier pas, c'est l'acceptation. Alors, dans le changement de vie, il y a eu cette première phase qui était vraiment importante, le travail sur soi, c'est de s'accepter. J'avais pas le choix, mais de le dire, c'est un élan vers la guérison.
Tu t'es fait aider ?
Oui, je me suis fait aider par une orthophoniste qui est une référence. Mais sinon, je me suis, au niveau psychologique, je ne me suis pas fait aider. Et c'est là, je pense, qu'une lacune dans le côté médical, c'est que l'annonce de ce que j'avais eu était assez brutale, parce qu'elle était plutôt légale, mais elle n'était pas prise avec des pincettes. L'orthophoniste, elle était très bien, elle me donnait des perspectives de guérison, mais pas une prise en charge psychologique. Mais quand on vous dit d'oublier votre visage et de tout réinventer, c'est quand même assez lourd. Du coup, j'avais le sport qui m'a vraiment aidé. Donc, je me suis aidé tout seul. En fait, le sport m'a aidé. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, si un jour mon visage rebouge, je vais le sentir. Donc, je veux tout ressentir. Je me suis mis à courir sans chaussettes en plein hiver. J'aurais pu aller pieds nus, mais c'était pas dans mon idée d'être à ce point radical. Mais courir sans chaussettes, ça permet de mieux sentir les choses. Je courais, je faisais des boucles de 2 heures, 3 heures. Je courais en ressentant chaque pas, en étant vraiment conscient. Je cours en pleine conscience. Voilà ce qu'on dit aujourd'hui dans le yoga, dans ces éléments de développement personnel, c'est être en pleine conscience dans l'instant présent. Je pense que ça, ce sont des étapes clés qui m'ont aidé. Et la course à pied, c'est un terrain d'illustration de ces outils-là de développement personnel, d'être concentré sur soi. Donc, ne plus se focaliser sur le monde extérieur, mais sur son monde à soi, d'être champion du monde, de son propre monde, de s'accepter tel qu'on est, d'accepter ses rêves. Donc là, en courant, donc il y a beaucoup de moments face à soi-même et d'introspection. Donc on se dit, voilà, je suis libre de tout réinventer. Qu'est-ce que je veux être en dehors de tout le conditionnement que j'ai complètement sorti de mon esprit et dont j'étais conscient. Donc je me suis dit, voilà, je veux être jardinier. Le producteur du Louis, c'est quelque part jardinier. J'aime le dessin. Donc l'olive sur ma bouteille, je l'ai dessinée avec des crayons de couleur que j'ai acheté pour mon petit garçon. Donc j'ai dessiné le logo de ma société.
Qui s'appelle Chris and Olive.
Voilà, Chris et Olive, c'est mon frère, c'est Christophe, moi c'est Olivier. Donc là, tu en parlais juste avant l'interview, l'entourage. Mon frère qui vivait loin de moi, c'était le trait d'union entre nous. Donc je l'ai mis dans l'aventure. Donc c'est le nom Chris et Olive, c'était assez évident. Pourtant, on a trouvé des noms un peu génériques, etc. Mais ça sonnait pas vraiment nous. Donc on s'est pas caché derrière une marque générique, un nom un peu sorti de nulle part. Donc Chris et Olive, ça nous représentait. Je me suis dit, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a de l'huile d'olive, donc je dessine une olive. J'avais vraiment envie de rendre toute ma vie simple et tout ce que je fais simple, lisible et transparent. Donc,
avec beaucoup de sincérité.
Et non, il y a que ça qui compte maintenant. C'est-à-dire que c'est quand on... je pense que quand on a presque entre guillemets, je suis assez... je vais trop loin dans ce que je dis, mais quand on a tout perdu, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, je me suis dit, voilà, j'ai perdu mon identité, mon visage d'avant, je dois tout refaire, donc je le refais tout avec sincérité. D'abord envers moi-même et paradoxalement envers les autres. Mais ce que je me dois à moi aujourd'hui, maintenant, c'est de m'accepter et d'être sincère envers moi-même. C'est-à-dire, ok, je ne veux plus être là où je suis, donc je veux partir. C'est de l'huile d'olive, je fais une olive dessus. L'étiquette, c'est du papier, je cherche du vrai papier, pâte à papier. C'est ce que j'ai mis sur ma première bouteille. Alors l'huile, on met aucun traitement dans notre livret. J'aurais pu faire une démarche bio, transition bio. Je me suis dit non, c'est de l'huile normale. Il n'y a pas de label. On la prend parce qu'on l'aime et pas parce qu'il y a des logos ou des labels. Donc pendant longtemps, enfin c'est la première année au bout de 5 ans que j'ai mis le logo AOP sur ma bouteille qui l'est depuis longtemps. Donc et bio, je sais pas si je le fais, mais il y a aucun traitement. Il y a le soleil, la pluie qui nourrissent mes oliviers, c'est tout. Mais notre démarche, c'est vraiment d'être dans le vrai, dans le concret, et d'enlever tous les filtres et d'être sans concession sur ces principes-là. Voilà, de vivre sans filtre, c'est d'être mise à nu. J'accepte mon visage, j'accepte ma rééducation, de reprendre tout à zéro, de plus envie de faire de la finance, d'être un jardinier de l'huile d'olive. Je veux faire du sport, je fais comprendre à mon entourage que c'est pas prendre l'air, c'est pas comme quelqu'un qui se réveille à Alors, j'ai aucune critique encore vers les gens qui, à 16 ans, se disent « Allez, je fais du sport parce que j'ai pris un peu de poids. » Moi, c'est inscrit dans mon besoin vital depuis petit. Donc, voilà. Avant, je faisais du sport, je me cachais de mes collègues pour pas que j'ai l'étiquette d'un banquier un peu sportif et donc pas trop sérieux. Ça, c'est un peu, malheureusement, en France, les étiquettes qu'on nous met. Et j'ai décidé de pas tenir compte de tout ça. Donc aujourd'hui, je mêle mes passions, mon métier, tout ça, c'est moi, c'est mon monde. Donc je fais du sport avec mes clients. Il y a des chefs avec qui je travaille, je vais faire du vélo, je parle pas que d'huile d'olive. Tout ce que je suis, je le montre et je cloisonne plus ma vie. Alors déjà, ça permet de pas se perdre en route. C'est-à-dire parfois, en faisant des concessions dans notre vie, en partageant sa vie avec quelqu'un d'autre, mais avec des collègues de bureau, avec ce qu'on pense qu'on va penser de nous. Alors
le regard des autres est très important, surtout en France.
Exactement. Donc du coup, je pense que de concession en adaptation, on s'oublie, on ne sait plus qui on est. Et je pense que sur le long terme, ça fonctionne pas. Donc moi, je suis revenu là-dessus. Je me suis dit, j'aime le sport, quel qu'il soit. Je fais de l'huile d'olive, tout est lié. Si je peux pas, c'est parce que je fais de l'huile d'olive. Si je fais pas de la course à pied, c'est parce que je suis avec des clients. Mais je peux livrer en tenue sport, avec des baskets, plein de boue. Voilà, c'est comme je suis. Et parfois, j'ai reçu un appel, je dis bon, là, je cours, je te rappelle tout à l'heure. Voilà,
t'es transparent sur
ce que je fais. Voilà, et surtout, je suis à ma place. C'est-à-dire, j'accepte d'être ce que je suis. Ça, c'est très, très important. Ça ouvre plein de choses parce qu'on se redécouvre. Et finalement, il n'y a plus vraiment de limite parce qu'on redécouvre ses rêves d'enfant. Et je pense que c'est Braille qui disait ça. Je pense qu'un homme ou une femme à 18 ans a déjà fait ses rêves et il faut qu'il les réalise. Et je suis assez d'accord avec ça parce que bon, j'ai deux enfants, je vois, je devine leurs rêves et je me dis, en tant que parent, c'est vrai que moi, je vais les pousser à continuer à cultiver ce rêve et de les réaliser. Bon, alors, ils sont tout petits, mais...
Ils ont 4 et 2, c'est ça ?
4 et 2 ans. Alors, en les observant beaucoup, ça m'apprend beaucoup sur moi-même et je me projette sur l'enfant que j'étais. Je me suis dit, c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas faire... On ne peut pas réaliser mieux que les choses qu'on aime faire et ce pourquoi on est fait... Mais depuis tout petit, je pense qu'à 6 ans... On est quasiment déjà, on a déjà tracé un peu les grandes lignes de ce qu'on aime et je pense que on a le temps d'évoluer. Alors s'accepter, c'est pas être fataliste sur sa condition. Je pense qu'on peut s'accepter et avoir envie d'évoluer, de changer, mais au moins on mesure mieux le point de départ. Et ne pas se prendre pour un autre, c'est aussi un élément très important. Donc moi, par exemple. Je me suis dit, voilà, je suis ce que je suis. Mon frère, il est ingénieur chez EDS, très bien. Moi, je suis producteur du LU, c'est très bien, c'est pareil. Et voilà, c'est parti.
Je pense que c'est important ce que tu dis d'écouter, de regarder les enfants. Moi, c'est un parallèle que je prends assez souvent. Quand j'étais petite avec ma meilleure amie d'enfance qui s'appelle Géraldine, quand on allait chez elle, on présentait le JT. En gros, son rêve, c'était d'être Claire Chazal.
Okay.
Et maintenant, elle est journaliste. Elle a déjà fait des JT sur des chaînes du câble et tout. Et quand on allait chez moi, on dessinait des pubs.
Okay.
Et bon, j'ai fait 15 ans de marketing. Et tu te dis, mais en fait, on avait, je sais pas, 6-7 ans. Et tu te dis, c'est quand même fou de se dire que les jeux qu'on faisait quand on était petite, bah, c'est devenu notre vie, en fait.
Exactement. Ouais. Mais ma femme, c'est pareil. Elle jouait au docteur quand elle était petite, elle est médecin. Mais je pense qu'il ne faut pas casser ça.
Il faut encourager les enfants avec
exactement.
Leur créativité.
Ouais. Moi, j'étais conscient que j'allais être en marge si je poursuivais, enfin on me disait que j'allais être en marge si je poursuivais mon goût pour l'art, pour le sport. Mais aujourd'hui finalement, si on arrive bien à se concentrer, à focaliser, à se réinventer, on peut faire les choses bien. Je pense que si on incarne ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de, d'aller au travail ou de faire quelque, de subir un labeur.
Et même si on travaille, enfin, dans les, j'ai fait 5 interviews à date et tout le monde dit que finalement ils travaillent beaucoup plus qu'ils n'ont jamais travaillé.
Ah bah c'est sûr.
En fait, ils n'ont pas l'impression de travailler.
Ah ouais, moi, c'est sûr, je travaille le dimanche, le samedi, à 21h quand les enfants sont couchés, je travaille, je me lève tôt. Mais c'est décousu. Moi, je suis capable de vivre en ayant un emploi du temps complètement décousu. Alors, j'ai cette autodiscipline de me dire, ok, là, c'est comme dans la course à pied, si c'est pas moi qui avance, c'est personne va me pousser, personne va faire les ventes, va faire la production. Donc ça, c'est on est maître de son destin. Moi, c'est ce qui me convient. J'ai pas envie qu'on me donne d'ordre, j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire ou comment le faire. D'ailleurs, quand j'ai réussi mes études, je me souviens, en fait, au lieu de travailler, j'allais nager. Et ça me mettait un peu une pression parce que je me suis dit, bon, bah là, j'ai fait mon sport et j'ai plus qu'à travailler maintenant. Et c'est comme ça que j'ai réussi mes études. C'est-à-dire, j'ai d'abord fait ce qui me convenait, c'est-à-dire, activité physique. Et après, je me suis mis à bosser et je bossais vraiment bien. Alors que si je travaillais frustré de ne pas être dehors, de ne pas avoir couru, de ne pas avoir fait, un truc qui me plaisait, mais c'était à l'extérieur, et ben j'ai l'impression de perdre mon temps, je cogitais, ça allait pas. Donc il faut se connaître, retrouver ses rêves d'enfant et être soi. Et moi, je trouve que je suis moi-même que... Enfin, je pense que tout le monde se révèle à soi-même lorsqu'ils sont hors de soi. C'est-à-dire qu'on est soi-même lorsqu'on sort de sa zone de confort. En tout cas, on se découvre. Parce que la zone de confort, c'est trop simple, c'est assez facile de vivre, on se fait pas violence. Quand on sort de sa zone de confort, on va un peu chercher un peu ses limites, pas pour les repousser. Et je pense que beaucoup de gens ont l'impression de repousser leurs limites, mais je pense que les limites, soit ça se travaille, soit ça se découvre, mais ça se repousse pas, c'est un peu inné. Donc voilà, on découvre ses limites, on découvre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et on se découvre soi-même, c'est hyper intéressant de se découvrir et de s'accepter. Parce que du coup, quand on est fatigué, on s'arrête. On n'a pas cette petite voix qui nous dit « Allez, tu devrais y aller, tu devrais faire ci ». La petite pensée parasite qui nous fait faire la concession du repos, par exemple. Donc, je pense qu'il y a une liberté qu'on s'autorise. Et finalement, c'est pas un luxe. Vivre ses rêves d'enfant, s'accepter, se découvrir, se mettre en danger. Alors, chez BNP, j'étais assez dans un métier assez sûr, mais c'est.
Oui, t'étais censé avoir une carrière toute.
Ouais, assez... voilà, et ça marchait bien, mais ça me nourrissait pas. C'est-à-dire que mon intellectuel était pas nourri. Moi, j'aspirais à d'autres choses. Alors, prendre des risques. C'est quand même intéressant, je pense que l'homme est fait pour prendre des risques, c'est la survie un peu, il lutte pour sa survie, et je pense qu'une personne lâchée dans la vie, face à son propre destin, l'instinct survie va lui la faire des choses qui dépassent ce qu'elle a envisagé pour elle-même, c'est-à-dire qu'on va se surpasser, c'est juste aller au plus profond de ses capacités. Donc être un peu... au pied du mur, dans tous les sports, on les voit, les artistes, les sportifs très, très doués, c'est voilà, sur un jeu décisif, et ben, ils sont en hypnose complète. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé dans cette seconde vie, c'est parfois d'être dans un... Je suis dans le lâcher-prise, et d'accepter le lâcher-prise. Alors, Ça paraît fou, insensé, parce que tout le monde veut contrôler du contrôle partout, mais je pense que le lâcher prise, c'est la nature qui nous guide, c'est son instinct, son subconscient qui nous guide. Alors moi, je dis ça, il y a peut-être des gens qui ont théorisé là-dessus, moi ça vient du terrain, de mon vécu, donc je l'explique peut-être à côté des vrais termes.
Après, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, typiquement, Daniel Bouin, qui est l'épisode numéro 3, Daniel, il a théorisé les changements de vie, ce qu'il appelle les sorties de zone, et il parle beaucoup d'ailleurs de sortir de sa zone de confort. Mais lui, il utilise ces termes à lui, et d'ailleurs, il dit aujourd'hui, il n'y a aucune science qui raconte ça, mais il dit, je suis convaincu qu'un jour, il y aura des scientifiques qui vont formaliser ça, parce qu'en fait, c'est... Ouais, c'est la vraie vie, en fait, des ouais. gens qui s'écoutent et qui, en fait, qui prennent un Y, comme il dit, qui prennent le bon chemin, mais parce qu'ils s'écoutent et ils écoutent leur petite voix. Et
exactement.
Il faut y aller.
Ouais, moi, quand je me souviens, il y a une période où, pour prendre une décision, j'étais très rationnel. Je faisais le pour et le contre. Je faisais une matrice SWOT, comme on nous apprend à l'école, voilà, et où je prenais l'avis des uns des autres. Mais c'était toujours des mauvais choix. Et en fait, ce qui m'a mis sur ce chemin-là, c'est que quand j'ai décidé d'être très simple, d'être animal, parce que dans ma rééducation, donc je courais, j'enlevais mes chaussettes en plein hiver, je voulais ressentir le froid, ressentir au plus possible les choses, je me suis mis à manger de cru, j'ai arrêté de cuire mes aliments, je voulais tout simplifier. J'ai simplifié ma vie au plus possible, c'est-à-dire les vêtements, j'en ai viré la moitié. En fait, j'ai voulu séparer le superflu de l'essentiel et me concentrer que sur l'essentiel. Et ça m'a déjà occupé toute ma journée parce que je l'ai fait en pleine conscience, dans l'instant présent. Et quand je dormais pleinement parce que j'avais fait que de l'essentiel. Le superflu, ça nous perd. Et mon alimentation, voilà, manger cru, ça m'a appris pas mal de choses. Alors forcément, on peut taper un peu loin, on est assez radical dans nos choix, dans nos propos. Pour l'entourage, ça
ouais, justement, c'est la question que je voulais te poser. Alors, comment ton entourage a vécu ça? Parce que tu es devenue une nouvelle personne.
Ouais. Alors ma mère, elle était à la retraite depuis un an. Elle a quitté la Réunion pour venir m'aider parce que Ma femme travaillait, moi je m'occupais de mon petit garçon, mais oui. Je devais faire ma rééducation tous les jours, donc elle pouvait me prendre le relais. J'ai eu ma mère et ma femme qui m'ont soutenu, qui étaient là. Bon, il y a eu tous les
ta maman vivait chez vous avec...
Oui, ma mère vivait chez nous.
Je ne sais pas pour ta maman, mais ce n'est pas forcément facile d'avoir sa maman au quotidien.
Non, c'était assez simple. Alors nous, on est assez proches de vivre loin pendant quand même 5 ans, 6 ans. On se voyait une fois par an. Donc là, il n'y a pas de place pour le superflu qui nous gâche la vie. On est vraiment sur l'essentiel et sur du plaisir. Et quand j'étais dans ma rééducation, j'étais dans une phase de ma vie pas dramatique, parce que aujourd'hui je suis vraiment convaincu que c'était vraiment un cadeau mal emballé que j'ai eu. Mais on est vraiment sur l'essentiel, quoi. Et les rapports humains sont basés sur la sincérité et l'essentiel. On n'a pas le temps pour les non-dits, pour les supposés, etc. Tout est carte sur table, tout est clair. Elle était là pour nous aider. Moi, j'étais très content qu'elle soit là. Ma femme était là. Donc, j'avais les deux femmes de ma vie qui étaient là. Et honnêtement, c'est une chance. Elles le sont encore aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, ma mère, elle passe sa vie entre la Grèce et la Haute-Savoie où je vis. Pour mes enfants, ils connaissent leur grand-mère. Donc, bien sûr, maintenant, elle a son indépendance, mais pendant ma rééducation, elle m'a beaucoup aidé. Pour mon entourage, ils ont été très tolérants sur ma façon de vivre. Alors ma mère qui voulait que je sois dans un métier sûr, etc. Elle, là, il n'était plus question de ça. Elle a bien compris que là, on est dans un autre monde là, quand on a le visage comme j'avais. Et puis moi à l'époque, pendant 2 mois, je me projetais vraiment sur le très court terme. Donc on accepte aussi en tant que maman le destin de ses enfants. Donc il y a quelque chose de salvateur qui se produit. Et l'entourage était très important, très tolérant. Je pense que c'est sûr que c'est pas évident, parce que en n'étant pas accompagné, je me suis cherché en tapant dans des extrêmes, c'est-à-dire je mangeais cru par exemple. Alors c'est un détail anodin, mais alors il y en a qui peuvent pas vouloir manger cru, mais j'étais sans concession sur ce qui me concernait.
Ouais.
Donc on faisait chacun son plat, moi j'étais à part. Et non, quand je voulais courir, c'était maintenant tout de suite, j'étais vraiment très à l'instinct. Et c'est pas facile, quand on n'a pas connu ce que j'ai vécu, d'avoir ce rythme assez instinctif, ce rythme de vie très instinctif que j'avais. C'était radical, sans concession, quand c'était aucune nuance.
Pour ta femme, ça a dû être en plus avec un bébé.
Ouais, c'était pas évident. Mais encore que là, j'avais déjà. Je m'occupais vraiment de mon petit garçon comme. Je me projetais sur sa vie. Il m'a aidé à ne pas trop me focaliser sur la mienne. Mm-hmm. J'ai transposé en fait mon attention sur lui. Et ça m'a beaucoup aidé pour relativiser ce que je vivais. Et d'ailleurs, ça a été, pour moi, il incarne un peu ma guérison. Quand je le vois, il y a un lien qui est vraiment assez fort, qui est très fort même. Donc du coup, je me suis occupé de lui comme jamais j'aurais pensé m'occuper un jour de mes enfants, quoi. Mmh. Je me suis découvert en tant que papa, vraiment, et avec bonheur. J'étais comme une mère, c'était instinctif, encore là, c'est animal, et j'ai laissé parler cette voix-là. Je pense que l'éducation a fait que les hommes sont assez distants des enfants. C'était une ancienne génération. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu changé. Notre génération, je pense qu'il y a moins d'écart entre la façon dont un père s'occupe des enfants que la mère. Après, il y a quelque chose d'instinctif et animal, le lien avec la mère est particulier. Mais je m'en occupe à fond, encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour une journée sans les emmener à l'école, c'est pas inconcevable. Moi, je les emmène à l'école, je les prends. Alors, parce que je peux, mais c'est pas du tout une labeur. Même si c'est pas tous les jours facile, j'ai choisi mes contraintes. Et là aussi, c'est choisir ses propres contraintes. C'est ça la liberté. Ouais. La liberté, c'est pas non plus vivre seul sur une île déserte à faire ce qu'on veut. Non, la liberté, c'est aussi vivre avec son entourage. Alors, on se fait des concessions, mais il faut savoir avoir son jardin secret. Et par exemple, à table, je pense qu'on n'est pas tous obligés de manger le même plat. Alors au même moment c'est un peu plus difficile, mais au moins chacun a envie de manger. Moi je commence souvent par les fruits. On me dit oui mais fais pas comme si. Alors c'est vrai que finalement la vie elle passe avec plein de fais comme si, fais comme ça, d'interdits. Nous à la maison c'est devenu un peu on mange comme on a envie, chacun fait. Alors on fait un mezzé, on partage, on pioche, on prend ce qu'on veut. Il y a un saladier avec des fruits, il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est on mange à certaines heures, mais pour faciliter les choses. Mais tout devient un peu plus instinctif. Et finalement, on apprend à être tolérant et on voit que ça va dans le bon sens, donc on ne change pas. Mmh. Mon entourage, ma femme, ma mère, elles m'ont laissé cette liberté. Et au bout de 8 mois, j'ai commencé à voir mon visage qui rebougeait. Donc pendant 8 mois, il ne se passait rien. Je faisais ma rééducation, je vivais comme ça, dans l'espoir d'eux, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et en fait, l'aspect mental, c'est que mon visage a commencé à rebouger quand j'étais dans le train pour Annecy. Voilà, j'étais dans les toilettes du train, je me regardais et j'avais senti qu'il se passait quelque chose sur mon visage.
C'est quand t'avais déjà emménagé à Annecy ?
Non, ma femme allait faire un remplacement dans un cabinet qui est devenu son cabinet d'ailleurs. Et donc cet élan vers ce nouveau cadre de vie.
C'était un peu un signe.
C'était un signe et du coup là, je me suis dit ok, l'aspect mental est énorme. Alors peut-être que c'était physique ou j'en sais rien, mais je pense que c'est très lié au mental. C'est que dans le train, en partant, en quittant Paris, en allant vers ce renouveau, cette nouvelle vie, mon visage s'est mis à rebouger. Il n'a jamais cessé de rebouger depuis et je pense que j'ai dépassé les espérances que les médecins m'avaient prédit largement. Mais j'ai encore fait une année de rééducation pour continuer, mais la rééducation est passée par ce soulagement mental de s'accepter. Mmh. Alors s'accepter en tant que visage paralysé, s'accepter en tant que visage avec des séquelles, et aujourd'hui j'ai complètement oublié ma vie d'avant. Quand je revois des photos, j'ai l'impression de voir une autre personne. Je suis hyper content d'avoir eu ce cadeau mal emballé. C'est vraiment génial ce qui m'arrive, et je pense que partir du moment où on vit dans l'instant présent, où on s'accepte, où on met aucune cloison et on est complètement transparent, on est dans un rythme un peu, une certaine vibration. Ça, c'est complètement personnel ce que je dis, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais j'ai l'impression que depuis que je vis comme ça, qu'il n'y a plus de hasard. J'ai vraiment la sensation qu'en tant que chef d'entreprise, je prends des décisions parfois qui me semblent complètement irrationnelles, mais au bout de quelques mois, il y a des fruits qui arrivent de ces décisions-là, et je me dis, ok, il n'y a pas de hasard. Il y a une façon de vivre un peu en vibration avec les uns et les autres, une façon de semer des graines sur son chemin, sans vraiment calculer, sans avoir une arrière-pensée un peu stratégique. Mais il y a des choses qui s'agencent et qui tombent très bien au bon moment. Alors, c'est dans des découvertes commerciales, par exemple des nouveaux chefs avec qui je travaille, des rencontres. Je crois vraiment à cette vertu-là du lâcher-prise et qui nous met sur une voie où il y a finalement peu de hasard et on se dit, mais les choses sont... Est-ce qu'elles sont... C'est la chance ou c'est le bon hasard? On ne sait pas. Moi, je suis convaincu qu'il y a...
Si on te dit que tu as de la chance, comment tu réagis?
Alors, j'ai de la chance... Ouais, je dirais subitement, oui, j'ai de la chance de vivre ce que je vis parce que déjà, je suis né en bonne santé. Je suis né en France, qui est un beau pays où on est libre de faire plein de choses. Donc déjà, ça, c'est des choses... dont on a la chance, parce qu'en ayant voyagé, il y a des pays où on n'est pas vraiment libre de faire tout ce qu'on peut faire. On a quand même un certain liberté d'esprit qui quand on voit le monde, oui, on se dit ça, c'est déjà un bon départ, c'est de la chance d'avoir ça, d'être bien né et au bon endroit. Mais ensuite, je pense que voilà, quand on a ça dans la main... Non, je pense qu'on est maître de son destin et on provoque sa chance, ou alors on la décide. Mais je pense qu'on a une bonne étoile, je dirais.
Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu penses que le supplément d'âme fait beaucoup dans la vie.
Oui, je pense que quand on est en pleine conscience, quand on est vraiment affairé à ce qu'on fait, ici et maintenant, je pense qu'on a... On fait les choses le mieux qu'on puisse les faire. Je pense qu'il y a, c'est une force d'être dans l'instant présent, de pas être parasité par ce qui s'est passé avant, de pas se projeter ce qui va venir dans quelques minutes, d'être vraiment là. D'ailleurs, ouais, quand il y a une phrase dans le livre Le Guerrier Pacifique, une personne qui demande à son interlocuteur où est-ce que tu es. Alors lui il dit je suis dans une station service, je suis assis. Il répète, non, où est-ce que tu es? Et au bout de l'interview, il finit par dire, je suis là. Et voilà, ça, c'est ramener les choses à la vraie vérité, c'est qu'on n'est pas là, dans une maison, sur Terre, à Paris. On est là, toi, en face de moi. Et c'est ça qui compte. Donc, c'est ce contexte-là qui fait qu'on a une grille de lecture assez différente. On a une façon de vivre, un rythme de vie assez différent. Et du coup, on a une intention dans tout ce qu'on fait parce qu'on a l'intention de vivre dans l'instant présent. Et je pense que dans le yoga, donc maintenant, je fais beaucoup de yoga. Et il y a une similitude dans le yoga, dans ma vie. Tout ça, c'est une continuité. D'avoir une intention, quand on fait du yoga par exemple, on a l'intention d'être fluide. Aujourd'hui je fais ma séance, je veux être fluide, ou je veux le faire pour telle ou telle personne qui ne peut pas par exemple. Donc cette intention-là, si on la met dans tous nos gestes du quotidien, je pense qu'il y a un supplément d'âme, et si on a vécu quelque chose de fort, il y a une raison supérieure pour laquelle on fait les choses qui les rend plus faciles. Alors par exemple la course à pied, courir 170 km, je pense que d'avoir vécu ce que j'ai vécu, je le cours pas pour battre tel ou un tel concurrent ou pour la performance, je le cours pour moi, je cours pour finir, et il y a ce supplément d'âme qui fait que voilà, même si sur une des courses j'ai eu un problème, une blessure au pied, j'ai pas abandonné. J'ai eu cette force supérieure qui m'a fait franchir la ligne d'arrivée parce que c'était, j'ai décidé d'être là, je voulais la franchir, sans me mettre bien sûr en danger physique, mais la barrière mentale n'a pas existé.
Ouais.
Parce qu'il y avait ce supplément d'âme, cette raison supérieure pour laquelle je fais les choses et je le fais quand je m'occupe de mes enfants, quand je bois un thé, quand je fais à manger. Faire à manger, c'est, ça, parfois, ça, enfin, avant, c'était assez mécanique, même si on prend des bons éléments au magasin bio. Juste le fait de faire, c'est de l'art. Mmh. Et quand on y songe, dans les couleurs qu'on va y mettre, dans les ingrédients, si on met un supplément d'âme, c'est différent. C'est vraiment un acte d'amour pour moi. Et voilà, donc moi, je fais la cuisine à la maison, je fais les courses, voilà, je décide de ce que je vais faire à manger pour moi, pour les autres. Et ça, c'est une parenthèse dans la journée qui a autant d'importance que de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de soi. Et je pense que dans une journée, il faut aussi s'occuper de soi et s'autoriser. Alors, chacun va dire une heure, deux heures, 30 minutes. Mais je pense qu'il faut... moi, je m'autorise, allez, quand je peux, mais un certain nombre de minutes, qui peut être une heure, deux heures, trois heures, où je pense qu'à moi, de façon égoïste. Et, alors ça, c'est aussi un élément assez... nouveau dans notre société, parce qu'on nous demande tous d'être généreux, de partager, etc., de penser à l'autre et tout ça, mais pas au détriment de soi. Mmh. Je pense que
si on n'est pas bien, les autres sont pas... enfin, notre entourage ne sera pas bien, en fait.
C'est comme en amour, on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Mmh. Je pense qu'il y a un point de départ qu'il faut reconnaître.
Bien sûr.
Et de le dire et d'accepter de se prendre du temps pour soi de façon égoïste. Si on l'a vécu, ces deux heures, aller pour moi de façon aiguë, je cours pour moi, personne n'existe, téléphone est éteint, etc. Quand je vais m'occuper de mes enfants, mais je vais être à 200% avec mes enfants. Je n'ai pas de raison de penser à autre chose. Donc, être vraiment dédié à ce qu'on fait et de s'autoriser, de s'accepter, c'est vraiment c'est bon pour les autres. Mmh. Et alors, c'est un travail à faire intellectuel, parce que ça paraît pas évident, mais c'est nécessaire. Je pense que c'est intuitif. On ne peut donner de soi que si on s'est donné à soi-même avant.
Ouais.
C'est comme le lâcher prise. Ça paraît pas intuitivement logique, mais de pas chercher du contrôle, les choses se font vraiment souvent très bien parce qu'elles sont faites instinctivement. Donc voilà.
Et la Christiane Olive, donc ça a 4, 5 ans, 6 ans ?
5 ans.
5 ans ?
Oui, 5 ans, 4 ans, je sais même pas. En fait, la vie passe tellement vite que je crois que ça a 4 ans.
Et donc là, maintenant, ça cartonne ?
Ça cartonne parce que, oui, ça cartonne. Nous, on est très contents de là d'où on a commencé. Alors nous, on n'est pas issus d'une famille de producteurs d'huile de génération en génération. Nous, c'est vraiment, ça fait... 7 ans qu'on fait ça avec mon petit frère. On est né à l'île de la Réunion, donc on n'est pas né en Grèce. On a décidé de faire une aventure en commun, de s'impliquer à fond, avec beaucoup de passion. Notre objectif, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est pas d'écraser les autres, de faire le champion de l'huile d'olive. On n'a pas la prétention d'avoir la meilleure du monde,
elle est quand même très bonne.
Elle est très bonne. Aujourd'hui, on participe à Olio Novo Days, qui est une sélection des plus belles huiles de l'hémisphère nord. Donc ça fait 2 ans qu'on participe. On était au podium hier sur le concours, sur plusieurs critères, l'huile, le packaging, l'éthique, la clarté, la transparence des informations. Donc ce qui nous satisfait, c'est d'être dans le jeu. D'ailleurs, c'est aussi un élément assez important, je pense, de faire les choses plus pour le jeu que pour l'enjeu. Et parce que l'enjeu dans une compétition comme ça, où ça dépend des autres, ça dépend des autres compétiteurs, ça dépend du jury, mais alors si, on serait triste si on n'y arrive pas. Alors que voilà, on était deuxième ou troisième, qu'importe, on est dans le jeu. Et c'est
intéressant. Enfin, tout ce que tu racontes est super intéressant, mais ce point, c'est super intéressant. Cet été, donc, j'ai fait un burn-out et j'ai lu un livre de Thomas Samut qui s'appelle « Un cancre dans les étoiles ». Et en fait, en lisant ce truc, j'ai eu un espèce d'éclair sur la vie, en mode où il disait, en fait, finalement, aujourd'hui, on est dans une société où en fait, c'est l'objectif qui nous rend heureux. Et ce n'est pas le moyen d'atteindre cet objectif. Et donc, je me rappelle rappeler mes objectifs marketing, ou en effet, bah, même le jour où j'avais mon augmentation, j'avais mon atteinte de génération de leads, enfin bref, j'atteignais mon objectif, mais je m'en fixais toujours un autre après. Mmh. Donc en fait, j'étais jamais heureuse parce que il y avait toujours un truc qui faisait que. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais la vie, c'est en effet, c'est le bonheur, c'est de faire. Et puis si tu atteins ton objectif, évidemment que tu es encore plus heureux, mais c'est pas ça la finalité et le but en soi.
Complètement.
La clé de ça.
Mmh. Ouais, je pense que pour être heureux, c'est. Enfin, voilà, c'est encore le parallèle et c'est pour ça que c'est intéressant. Le sport, la vie, tout ça, c'est la vie en fait. C'est pas de gagner. D'ailleurs, les plus grands champions qui ont eu des victoires ont ce point commun de dire que c'est pas la victoire finalement qui compte, mais c'est tout le travail que cela a nécessité. C'est l'entraînement. En fait, la fin en soi, c'est pas la victoire, c'est pas la course, c'est pas le match, mais c'est tout l'entraînement, c'est le quotidien. D'ailleurs, ça serait triste que ce soit la victoire, parce que sur une course, une compétition, il y a 20 compétiteurs, ça serait dommage que de faire ça, d'y prendre part pour qu'il n'y ait qu'un seul heureux.
D'ailleurs, Thomas, c'est le coach, il est coach mental, notamment de tous les grands sportifs nageurs du cercle des nageurs à Marseille.
Ok, et ah bah voilà.
Donc, ouais, il a vu ça, ouais. Ouais, bah c'est, il le voit
c'est,
encore.
Bah moi, je pense que c'est vrai, il faut pas faire les choses pour gagner, il faut pas faire une course pour la gagner. Je pense que ça serait complètement fou de se dire ça. D'ailleurs, ça veut dire que si on se fixe un classement. Dès qu'on dérape un peu, on abandonne, donc on finit jamais rien parce que forcément, à un moment donné, il y a des hauts, des bas. Non, je pense que une compétition, une course, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce qui compte vraiment, c'est tout le chemin, la discipline que cela demande. Et il faut vraiment prendre du plaisir là-dedans parce que sinon, on sera toujours malheureux. Parce que tôt ou tard, la vie, elle nous rappelle à ce qu'on est. Aujourd'hui, on est moins en forme parce qu'on n'a pas bien dormi. On a eu, je sais pas, une expérience différente d'un autre. Si on mettait notre bonheur dans les mains des autres, ça serait un peu dommage. Mmh. Faire une course et gagner et être heureux de ça, c'est finalement mettre son bonheur sur la force ou la faiblesse de ses adversaires. C'est un peu se tirer une balle dans le pied. Je pense que se donner les moyens
pour la course.
Ouais, oui, et en plus, bon, la vie, on peut dire que c'est une course, mais pas une course pour la victoire. C'est se découvrir, c'est profiter du quotidien. Je pense que c'est une discipline, se donner une discipline, ça donne du plaisir. Moi, il y a une certaine routine dans ma vie que j'aime aussi, c'est certains repères. Et parfois, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Donc tout ça, c'est un peu des nuances, des extrêmes qu'il faut aller chatouiller. Je pense que les habitudes ne sont jamais bonnes.
Oui, et puis en plus, on est des petits. En fait, on se dit, tu fais une course pour gagner. Mon mari a refait le Marseille-Cassis 10 ans après. Et là, c'était en octobre. Et moi, donc, il explique à nos enfants qu'on est 8 et 5, qu'il a couru et tout. Premier truc que mon fils a demandé quand il a fini, il a eu au téléphone, « Papa, t'as gagné !» Alors non, c'était pas l'idée, c'était pas l'objectif. Il était, je sais pas combien tième dans le classement, mais c'était pas le sujet en fait. Et dès petit, tu te dis, le premier truc auquel il a pensé quand il a parlé de sa course, c'est t'as gagné, mais non. J'avais pas l'intention de gagner. J'ai juste fini et c'est déjà cool en fait.
Ouais, déjà, je pense qu'il faut pas faire les courses pour battre les autres, mais il faut pas faire les courses pour contre soi. Il faut faire les courses pour soi. Il faut faire les choses pour soi. Et avant tout. Si on est satisfait de l'éthique qu'on s'est fixée, si on est droit dans ses bottes, moi je dis ça, je dis qu'on est à la verticale de soi, c'est-à-dire qu'on est vraiment droit dans ses principes, on n'est pas en porte-à-faux. Je pense qu'on se donne, on donne le meilleur de soi, et après, forcément, bon, en interaction avec les autres, on donne le meilleur de nous-mêmes aux autres. Et le point de départ, c'est nous, et je pense que c'est important de pas se tromper d'objectif. L'objectif en soi, c'est pas d'être le meilleur du monde, c'est d'être le champion du monde de son propre monde, et ensuite on pourrait être et donner le meilleur de soi. Donc moi je suis content quand j'ai le donner le meilleur de moi. Je suis entièrement dédié à mon entourage, et même si ouais, si, s'il n'y a pas de victoire au bout, c'est... je pense qu'il y a des gens qui ont des victoires et ça ne leur suffit jamais. Ils courent après des objectifs et ils ne sont jamais satisfaits. Le but dans la vie, c'est d'être heureux,
ouais.
D'avoir un rêve et de se réaliser. C'est le chemin. D'ailleurs, la vie, l'objectif de la vie, c'est, enfin, la finalité de la vie, c'est on va tous mourir. L'objectif, ce n'est pas d'y arriver le premier. C'est tout ce chemin qui va nous y conduire le plus tardivement possible. Mais si on se retourne sur sa vie, admettons à 90 ans, et qu'on se dit, bon, je suis content, j'ai tout eu, mais je suis passé à côté de ma vie, je pense que ça serait vraiment triste parce qu'on ne peut plus recommencer. Alors, si on arrive à se dire, ok, j'ai vécu pleinement selon mes principes, selon mes goûts, en étant à la verticale de moi-même, voilà, qu'on ait eu des victoires ou pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on soit vraiment en accord avec soi-même, et au moment de partir, je pense que c'est ce qui comptera le plus.
C'est clair. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui ?
Je suis le plus fier de la famille que j'ai fondée, de l'endroit où je les ai emmenés. Alors, bon, j'ai pas été le seul à tirer la remorque avec tout le monde dedans, mais j'étais le moteur. Et aujourd'hui, d'être dans les montagnes, de vivre, de montrer à mes enfants que voilà, il y a les quatre saisons, de les vivre, c'est-à-dire que l'hiver, on a les pieds dans la neige, le printemps, c'est dans les fleurs, l'été, il fait chaud. Et le printemps, c'est le paysage orange.
L'automne.
Voilà, de ce contraste-là. Pour moi, quand j'étais à La Réunion, par exemple, j'avais pas d'hiver, c'était toute une saison, et l'été, j'étais attiré par ça, par ce contraste-là. Voilà, les emmener dans cet endroit-là, d'être producteur d'huile d'olive, leur montrer quand je vais en Grèce, je leur montre comment poussent les oliviers, comment on fait l'huile d'olive. Comment, alors forcément, on a un potager, on a des arbres fruitiers, comment on cueille le basilic, les tomates, d'être rappelé à la vie, au terroir, ça j'en suis fier. Et voilà, c'est en étant producteur d'huile d'olive que j'ai pu emmener mes enfants à découvrir ça. D'avoir cette vie un peu entre la Grèce, la France, donc c'est une ouverture d'esprit, c'est des cultures différentes, ça c'est... Pour moi, une fierté, c'est le chemin que j'ai dessiné, qui n'était pas forcément très rassurant si on l'écrivait sur une page blanche, mais d'avoir osé le faire et d'avoir eu un entourage qui m'ait compris et qui m'a suivi un peu dans l'aventure, je pense que ça, c'est la fierté. Donc, c'est l'entourage que j'ai eu, l'ouverture d'esprit qui m'a permis de le faire, ça, c'est important.
Tu parles le grec, d'ailleurs ?
Très très mal, et vraiment les rudiments.
D'accord.
Donc alors c'est très méditerranéen comme pays, et ils parlent très bien anglais, mais par contre quand on essaye de parler grec, donc c'est pareil, c'est donner le meilleur de soi, l'objectif c'est pas d'être complètement bilingue, mais d'essayer de faire, ça ouvre plein de portes, parce que du coup ils me parlent en anglais, et puis on avance. Non, je pense que non, c'est l'intention aussi, tout pareil, c'est voilà, l'intention qu'on donne dans le rapport à l'autre, d'essayer de s'adapter à l'endroit où on est et pas l'inverse, ça ouvre toutes les portes.
Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner aux gens, que tu aurais aimé recevoir?
Ouais, c'est de vivre ses rêves d'enfant. Je pense que ça paraît un peu vu et revu, je pense que ça paraît un peu même idyllique comme vision, mais je pense que voilà, on a des rêves, et chacun a sa vie, chacun a ses rêves, et personne n'est là pour dire ce que toi ou toi tu dois faire, parce que la vie, elle peut s'arrêter n'importe quand, t'as pas le droit de décider pour les autres, donc chacun vit sa vie, et puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Je pense que pour retenir une personne, c'est lui donner la liberté. Alors encore une fois, ça paraît, c'est comme le lâcher prise, ça, c'est l'absence de contrôle. Pour moi, l'amour, je vis comme ça, c'est vraiment laisser la liberté à mon entourage, donc ma femme, ma famille, mes enfants. Je pense que c'est ça paraît un peu difficile de se dire, ok, je m'autorise de lâcher prise, de l'absence de contrôle, pour finalement garder mon entourage et mon confort. Mais ouais, c'est cette grille de lecture qu'il faut effacer, ouais, c'est ça, c'est de laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent, et ça sera bien rendu pour eux et pour vous.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut déguster ta tendue d'olive sur une table d'un grand chef ?
Oui.
Plus que dans la cuisson.
Alors oui, bien sûr. Chez Yuan Kong, donc, je pense qu'il a été sensible à mon histoire. Mm-hmm. Donc je pense que plus que le produit, je pense qu'il y a l'histoire qui lui a vraiment parlé. Donc il est venu en Grèce faire la récolte. On lui a dédié une parcelle pour son restaurant. Donc même sa famille vient en vacances pour faire la récolte. Donc Yuan Kong, qui est chef 2 étoiles à Annecy, utilise notre huile. D'ailleurs, forcément, il avait des fournisseurs au début, on ne l'a pas tout remplacé comme ça. Mais un jour, il m'a invité chez lui parce que j'étais un peu impatient. Je me suis dit, les commandes pour la cuisson, est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Il me dit, j'ai encore pas mal de stock, mais regarde avec quoi je fais la cuisine pour mes enfants. Et c'était avec mon huile. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, c'est bon, tout va bien. Donc, chez lui, dans son restaurant et dans sa cuisine, alors déjà, ça, c'est pour moi très important. Après, chez Jean Sulpice, qui est aussi 2 étoiles, qui sont voisins, et qui est de l'école Marc Vera. Chez lui aussi, on peut retrouver notre huile. Après, on a des chefs qui ne sont pas étoilés. Des chefs qui ne sont pas forcément sur la course à la performance ou la reconnaissance, mais qui aiment le produit. Ça compte. Nous, on ne veut pas viser que les étoilés. Je vends des huiles à des individus qui n'y connaissent rien. Je leur explique, à des chefs qui aiment le produit. Mais alors, on a une vitrine, c'est les étoilés, mais pas que. Il m'est arrivé même me déplacer dans un restaurant pour livrer une bouteille. Même le colisage, parfois on me dit, c'est quoi ton colisage ? Moi, le colisage, c'est une bouteille, quoi. C'est pas... on peut se retrouver sur plusieurs tables parce que finalement, les gens, ils ne veulent plus prendre le temps de s'embêter à venir pour une bouteille. Donc, c'est important de rencontrer les chefs, de leur expliquer. Donc, il y a des restaurants étoilés, non étoilés.
Des pâtissiers aussi ?
Des pâtissiers. Il y a un pâtissier qui nous a marqué, c'est Alexandre Oliver, qui était chez Yuan Kong, qui a eu le Gomio meilleur jeune chef pâtissier en 2018, qui a été élu chef de l'année. Donc, on a écrit un dessert ensemble, le retour de Kalamata, qui est un dessert autour de l'huile d'olive, des agrumes, de la fleur de sel et du miel qu'on produit. Donc lui, c'est le petit-fils de Raymond Oliver, qui a aussi marqué la gastronomie en France. Et lui, je trouve qu'il a un peu une espèce de folie. Il a son monde et ça marche bien entre nous parce que on a beaucoup travaillé sur ce dessert-là, mais finalement pas tant que ça parce qu'on a gardé les aliments assez bruts. Donc chaque aliment, on gardait leur côté naturel, brut. Les saveurs sont contrastées. On a du miel et de la fleur de sel dans un même plat. On a de l'huile d'olive à la place du beurre. On a le croquant d'une tuile aux amandes et le côté liquide de l'huile d'olive. On a un peu un voyage des textures, des saveurs. On ne s'est pas mis de barrière. On a tout réinventé. On ne sait pas trop si c'est un dessert, si c'est un plat. Mais beaucoup de gens ont voulu faire tout le gastro pour finir sur ce dessert-là. Donc ça a compté dans notre histoire. Donc ça a inspiré d'autres chefs, un autre qui est arrivé deuxième au championnat de France de pâtisserie avec ce dessert là. Nous on est content de faire. Alors nous on a juste fourni les ingrédients et on a écrit la recette, on a fait partie de l'aventure, c'était vraiment cool.
Pour ceux qui ne vont pas dans ces restaurants là, ils peuvent acheter l'huile d'olive en ligne.
Oui, sur notre site internet, donc c'est chriseolive.fr.
Je le mettrai sur le blog aussi.
Ils peuvent acheter toute notre production. Suivre notre aventure sur Instagram aussi. Alors toutes nos photos, elles remontent sur le site. Et on partage aussi des conseils sur la nutrition, sur comment utiliser l'huile. On a une petite partie blog où on fait parler certains chefs qui utilisent nos produits. Et puis, on a pas mal de projets d'avenir d'oléotourisme, donc d'inviter des amateurs faire une récolte avec nous, d'apprendre auprès des gens qui nous entourent. Parce que là aussi, l'entourage, ce qui est important, c'est important de le souligner même à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on a un projet, c'est bien de fédérer sa famille autour du projet, de ne pas faire son petit truc de son côté. Embarquer toute la famille, c'est important parce que ça donne plus de force et sur le long terme, on est satisfait en commun et ça, c'est le partage, c'est important. Mmh.
Avant qu'on se quitte, à qui tu avais envie de dire merci et pourquoi ?
Alors, je dirais merci à ma femme en premier. Enfin, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, mais à ma femme, à ma mère, à mon frère, à mes enfants. Donc eux, voilà, mon entourage proche, c'est, je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je fais les choses parce que je sais qu'ils sont à côté de moi et ils sont fiers de ce que je fais. Je fais de l'huile d'olive d'ailleurs, pas pour moi, mais je pense à mes enfants. C'est un travail qui se joue sur des générations. Alors peut-être qu'ils voudront la revendre, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je pense passer le flambeau et voilà, la vie d'un olivier, nos oliviers ont 600 ans. Je pense qu'ils pourront le donner à leurs petits-enfants et ainsi de suite. Et je pense que c'est une trace dans l'histoire de la famille qui est intéressante.
C'est beau. Merci beaucoup, Olivier. Voilà.
De rien, merci à toi.
Maintenant que l'épisode est fini, je peux vous l'avouer. C'était un challenge, car avant l'interview, je ne savais que peu de choses sur Olivier. Il était le premier où il n'y avait rien sur sa vie ou son histoire sur Internet. Ce moment a également été très émouvant, car comme vous, j'ai découvert le parcours incroyable d'Olivier. Et si vous avez envie de goûter l'huile d'olive de Chris & Olive, ce que je comprends complètement, j'ai une bonne nouvelle pour vous, car Olivier vous fait gagner un coffret. Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, Pourquoi pas moi podcast, ou sur mon profil LinkedIn. Et encore une fois, j'ai besoin de vous, besoin de vos étoiles sur Apple Podcast, besoin que vous me suiviez sur Deezer ou Spotify. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?